Aujourd'hui, je reçois à l'émission Mme Hélène Boulanger qui sollicite un second mandat comme mairesse d'Anticosti, de Port-Meunier. Et d'abord, bonjour, Mme Boulanger.
Bonjour François.
Donc, on se lance en campagne électorale d'ici le début novembre. On a déjà fait votre bilan à la fin juin. On a couvert pas mal ce que vous aviez réalisé avec votre équipe, votre direction générale également. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui intéresse certainement aussi nos auditeurs et auditrices, c'est de savoir où on s'en va selon vous et parce qu'on vote pour ce qui est devant. On tient compte de ce qu'il y a eu derrière, mais on vote pour ce qui est devant aussi. J'aimerais qu'on parle d'abord du développement municipal par le biais des infrastructures, parce que ce que j'entends, c'est que parfois on ne peut pas avancer aussi vite qu'on voudrait, parce qu'il faut être capable de raccorder les nouveaux projets de maisons ou d'éventuels lieux d'hébergement, et que là, ben, il y a ces défis-là d'être capable de se brancher au réseau d'égouts, d'aqueducs et compagnie. Où en sommes-nous dans ce développement de capacité à croître comme municipalité physiquement?
On va faire référence, François, si vous voulez, le mois dernier, à la dernière séance de conseil, on a fait un octroi pour un contrat pour faire des études pour les coûts qui vont être associés aux besoins là, pour faire des prolongements de réseaux de sanitaires et aqueducs. L'idée étant que il y a eu là, quand même une longue période où est-ce qu'il a fallu faire des représentations avec l'environnement parce qu'il y avait absolument pas d'ouverture à pouvoir faire des prolongations, entre autres ce qui concerne là, le réseau sanitaire pour les eaux usées. Et parce qu'on n'est pas aux normes des eaux usées. Évidemment, on est en processus, là. C'est une autre chose qui s'en vient, un des gros projets qui est à venir, qui est en cours et à venir. Mais en attendant, il y avait une interdiction formelle de faire toute canalisation pour les eaux usées. Et je dois te dire que ça a été très ardu, très ardu. Ça a pris plus de 15 mois avant d'avoir un renversement de décision. Et là, tous les paliers ont pu être faits là, pour arriver à faire comprendre la petite demande que j'avais, puis la nécessité là, d'avoir une ouverture. Bon, il y a eu une décision négative qui a été renversée. Et c'est ce qui fait que là, avec le temps, on est prêt maintenant, on a un urbaniste, on a différentes choses pour arriver et donner un contrat. Contrat d'ailleurs, ces choses-là, quand on fait des études, elles sont financées, là. Tu sais, il y a un programme qui permet d'aller chercher des financements pour ça. On va faire une étude d'évaluation pour voir quels seraient les coûts pour faire ces prolongations-là dans quatre différents endroits, là, à la municipalité. Et un principal, c'est la zone, ce que j'appelle la zone du château d'eau. Plusieurs peuvent reconnaître ce que je suis en train de dire, là. C'est un espace là, important où il y a des terrains qui sont disponibles, mais là, pour l'instant, il n'y a pas ces canalisations-là. Fait qu'on lance une étude pour voir quels seraient les coûts pour faire ces travaux-là à cet endroit-là. Il y a d'autres endroits aussi là, entre l'école et l'endroit où il y avait l'ancien club. Là, il n'y a pas de canalisation là, mais il y a des terrains qui sont disponibles. Puis il pourrait y avoir des corporatifs, des entreprises qui pourraient être intéressées à vouloir faire des constructions là. Puis la rue de la Faune, qui est dans la mire, là, la zone de la rue de la Faune et l'endroit aussi où il y avait l'ancien MECO, qu'on appelle. Fait que donc, ça, c'est un gros travail qui est à faire. L'étude, la demande a été faite. Le contrat est octroyé depuis le mois dernier à la firme Fédération québécoise des municipalités là, pour faire ces études-là et les firmes associées. Fait que donc, le but de développement, il se maintient parce que, initialement, je te dirais, il y a 4 ans, je me disais, fallait investir pour faire du logement. La municipalité n'a pas la capacité, comme dans des grandes villes, de faire des logements sociaux. On le sait maintenant, là, ça chiffre dans des millions de dollars. Mais il faut développer, d'avoir des terrains et de les disponibiliser. On avait fait notre politique pour la vente des terrains, ceux qui autrefois on appelait les terrains des mini-maisons, là, qui sont des construction pour résidences régulières qui vont se faire. Fait qu'on a fait cette étape-là. On est avec le ministère des Ressources naturelles pour aller chercher d'autres terrains pour disponibiliser. Et tel que je viens de le dire, il va y avoir là, ces espaces-là où est-ce qu'on fait l'étude. Fait qu'il y a beaucoup de choses de pain sur la planche là, pour le développement du logement et des infrastructures qui sont associées. Ça va bon train, ça.
Qu'est-ce qui a fait qu'on vous interdisait de procéder, de créer d'autres canalisations, puis soudainement, on vous donne un coup? Qu'est-ce qui s'est passé entre l'interdiction, puis là, cette permission?
Okay. D'une façon générale, lorsqu'on n'est pas aux normes des OUC, avec les dégrilleurs qu'on a, ces méthodes là ne sont plus acceptées avec le ministère de l'Environnement. Les municipalités qui sont en défaut ont cette obligation-là d'aller se mettre aux normes. Et tant et aussi longtemps qu'on n'est pas aux normes, c'était un refus catégorique. Alors là, ça a été une démonstration et 20 fois plutôt qu'une, d'expliquer jusqu'à quel point, en attendant d'être aux normes, notre dégrilleur qui agissait puis qui a déjà agi, là, c'est quand même pour un total de population qui est très petit. Puis même en faisant, parce qu'on reçoit beaucoup de pression pour faire du développement, puis pour être capable de répondre, là, faire ces canalisations, ça représente quand même un petit usage, si je peux dire. Puis il y a quelqu'un qui, à un moment donné, a eu un éclairci là, de comprendre jusqu'à quel point c'était petit. Tu sais, à un moment donné, c'est pas comme si on disait qu'on voulait faire un développement immobilier pour ajouter 100 000 logements et plus avec un système qui est pas aux normes. Même avec la capacité qu'on a de construire, si dans les 5 prochaines années, on arrivait à mettre 20 logements supplémentaires, c'est 20 façons de tirer la chasse d'eau, 20 à 40 par jour peut-être supplémentaires. C'est dérisoire, là. Tu sais, c'est petit comme ajout dans la canalisation, incapable de supporter ça. Mais le non-ferme, c'était dire non, c'est pas un flush, une chasse d'eau de plus. Et ça a été jusque dans le bureau du ministre de l'Environnement, là, maintenant qui est changé, mais dans le temps de M. Charette. Et les fonctionnaires, écoute, ça a été vraiment un chemin de croix d'arriver à avoir ce renversement de situation-là. Puis la raison qu'ils ont dit pour laquelle ils avaient changé d'idée, c'était d'arriver et de dire, ben, on a pris la mesure. C'est tellement dérisoire, là, on y va. Ça fait que c'est ce qui nous permet maintenant là, de pouvoir avancer dans ces projets-là.
C'est dérisoire quand on regarde le nombre total, mais pour l'île, pour la municipalité, c'est important. Si on peut ajouter
Oui.
20 maisons, ben, ça peut faire 50 à 60 personnes de plus, en fait.
Ben, c'est ça, là. Parce que tu sais, puis je reviens, la capacité financière de la municipalité de faire ça, c'est impossible. Mais quand on arrive puis qu'on disponibilise des terrains, chaque personne, chaque investisseur, et toujours, là, je dis tout le temps avec notre politique qui donne la priorité en tout temps à des gens qui résident à l'île, là. Mais sinon, si ces gens-là ne prennent pas les terrains, ben, il peut y avoir d'autres personnes qui vont les prendre. Puis, tu sais, quand on met des contraintes, il faut qu'une personne elle a l'obligation de faire des bâtiments avec 2 logements minimum. C'est obligé, tu sais. Fait que ça force le portefeuille de d'autres investisseurs à fournir pour aller faire ce qu'on souhaite, c'est créer du logement.
Et puis je regarde ça parce que disons que ma courbe d'apprentissage de l'île n'est pas si longue, là, si on compare avec bien d'autres, mais je sais qu'il y a peu de temps quand même, il restait très peu d'enfants à l'école. Et puis cette année, je vois qu'il y en a 25 à l'école, sans compter les plus petits qui y sont pas encore. Donc, à quelque part, il y a, je dirais, un renouvellement peut-être un peu de la population à l'île.
Oui, il y a un renouvellement. Les gens en place, je dis à un moment donné, on est pour plusieurs, j'appelle ça des seniors. On est des seniors. Donc, les familles sont complètes pour ceux qui sont les résidents depuis un certain temps. Maintenant, il faut augmenter la population par le développement. Puis oui, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Ce sont des enfants qui viennent de l'extérieur. Le travail qu'on fait actuellement, François, c'est pour permettre que ces enfants-là qui viennent de l'extérieur vont pouvoir grandir ici, vivre ici, travailler ici, être logé, puis faire la suite des choses. C'est ça qui est le but, là, qu'on continue à avancer. Parce que comme on le disait tout à l'heure, quand l'école est venue qu'à avoir seulement 6 enfants, à un moment donné, s'il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus. Tu sais, c'est une dégénérescence, là. On ne peut pas aller là, là. Ça fait que c'est vraiment des points qui sont très, très positifs de voir que le dynamisme qu'il y a là, dans les dernières années fait en sorte que des familles viennent ici pour s'établir avec leurs enfants.
Il y a, je pense, Mme Boulanger, un dossier qui intéresse tout le monde, c'est-à-dire le dossier du tourisme, parce que là, on se fait dire que la reconnaissance par l'UNESCO, ça nous permet d'avoir une attraction plus importante. Ça met les lumières sur l'île aux yeux de gens qui peut-être ne s'y intéressaient pas avant et qui là pourraient vouloir venir. Il y a des scientifiques qui viennent, oui, mais là, on parle de monsieur, madame, tout le monde, touristes, qui aimeraient peut-être venir à l'île. Et notre capacité à les recevoir est quand même relativement limitée. Et il y avait des projets dans l'air, destination Anticosti, on parlait de développer l'ouest, le secteur ouest de l'île, Lanceau-Fraise, bon, Baie-Sainte-Claire. Puis là, ça, on a moins vu de tangible là, pour nous, là, qui regardons, observons ce qui se passe. On s'en va où et on en est où avec les projets de développement touristique à l'île?
Alors, pour refaire un peu l'historique du développement touristique, comme on l'a dit, c'est vraiment une pression qui est exercée de l'extérieur, là, pour voir la fenêtre de visibilité là, qui est due à la reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, c'est pas que les gens de la planète, là, c'est aussi les gens du Québec, là. Beaucoup de gens veulent venir. Alors, il y avait cette obligation-là de vouloir faire un développement touristique. La façon que la municipalité s'est impliquée depuis presque 5 ans, c'est d'ailleurs d'aller chercher des fonds. D'aller chercher des fonds pour être capable de faire le travail dont je vais parler. On a reçu des fonds totaux là, pour cette période-là de 450 000 $. Puis ça, ce que ça fait, ça a financé au fil des années toutes les études qui ont pu être faites, il y en a eu plusieurs, pour venir à bout de créer, parce que cette corporation-là, elle ne serait pas municipale. La volonté, c'est de faire, puis je fais le parallèle, Société du patrimoine mondial, c'est une OBNL totalement indépendante. Alors, Destination Anticosti, ce serait aussi, ou ce sera, une corporation complètement indépendante et autonome. Et le but, c'était de faire tout un plan d'implantation puis une démonstration au ministère du Tourisme qui était très en faveur, sachant, estimant, évaluant grossièrement lequel pourrait être les coûts, là, tout au fil du processus, ils ont été d'accord. Fait que donc, le travail a été fait, le plan d'implantation a été déposé au ministère, mais le timing, on va dire comme ça, là, était pas dans le meilleur parce que ça s'est trouvé là, dans la période du dernier budget où il y a eu des restrictions, des resserrements budgétaires importants. Fait que donc, le projet, il a déjà été présenté d'ailleurs, des présentations citoyennes qu'on a pu faire. Le projet qui allait bon train, puis qui était à maturité pour la première phase, est comme en attente. C'est pas, tu sais, ce n'est pas un refus, c'est une attente. Cependant, ce que je trouve être une bonne nouvelle, parce que des fois, le fait de changer de personne, la ministre maintenant qui est au ministère du Tourisme, Amélie Dionne, députée de Rimouski, bien, ça va nous faire relancer encore le projet. On va rebrasser ça. Parce que tout ça, tu sais, notre ministre régional, tout le monde est au courant, là. On fait les démarches pour arriver puis dire, je comprends qu'il y a une stase, mais vous comprenez qu'on peut pas attendre la stase. Alors, l'ensemble du projet contenait différents endroits, là, à la municipalité. Il y a le secteur du château Meunier, celui pour lequel on a déposé le début du projet. Mais il y a aussi la partie ouest. Alors, Pointe-Ouest, Lanceau-Fraise, et surtout sur la maison du douanier, sur lesquelles il y a eu des études, là, qui ont été faites. Puis j'aime à prendre le temps tranquillement là, pour dire à tous les auditeurs que ce dont je parle, tout le monde peut avoir un accès à ça en allant sur Internet. On plan destination anticosti.com. C'est un petit résumé, là, quand je parle du plan d'implantation, une quarantaine de pages. C'est bien illustré, mais les gens, je trouve qu'ils devraient aller faire cette lecture-là pour s'approprier parce que les gens vont se reconnaître, là. C'est tellement, c'est notre localité, c'est notre jardin où est-ce qu'on est tout le temps, là. D'aller prendre connaissance du document. Et aussi, il y a 16 annexes qui ont été produites parce que c'est chacune des études qui ont été faites avec des experts de toutes parts. J'en nomme quelques-uns, Rando Québec, Aventure Touriste, Département de géographie et de certificat en tourisme de l'Université Laval. Alors, tous des experts de grande qualité là, qui ont fait ces études-là. Celle dont je parle, François, c'est l'annexe numéro 10. Elle parle précisément de la maison de la Baie-Sainte-Claire. Parce que dans l'ensemble du projet, là, ça aussi, ça en fait partie, mais des fois, tout le monde ne peut pas savoir jusqu'à quel point on travaille quand ce n'est pas apparent, là. Cependant, le travail est constant. La qualification, là, il y a des estimations entre 800 000 $ et 1 million $ pour faire un genre de café-terrasse. Encore là, tout à fait dans les normes, puis normes sécurité, puis tout ce qu'on veut, là, pour faire un point touristique là, de belle qualité, de haute qualité. Ça fait que donc, ce travail-là a été l'annexe 10 est à prendre connaissance. C'est la volonté de la municipalité que par destination Anticosti, là, ça va être fait. C'est comme à Lanceaufraisse, hein, on a des terrains à Lanceaufraisse. Ça aussi, c'est pour faire du développement. Et à la pointe ouest, c'est tous les endroits ciblés pour l'ensemble du projet. C'est qu'on a une nouvelle ministre du Tourisme. On va relancer tout ça. On va recommencer. On va poursuivre et recommencer parce que c'est une nouvelle personne. Puis, à faire la démonstration jusqu'à quel point c'est important et que les fonds, lorsqu'il y a une volonté, on les trouve. On les trouve. Les acceptations, ce qu'il faut, c'est convaincre la personne là, de l'importance du dossier. Fait qu'on continue. On ne laisse pas aller.
Quand vous dites on va recommencer, bon, vos études sont faites. Si je comprends bien, c'est qu'on ne peut pas improviser non plus les projets. Il faut qu'ils reposent ces projets-là sur des études qui démontrent, différents ministères, allais-je dire, la faisabilité, le pourquoi, puis le sérieux de l'affaire. Mais quand vous dites on va recommencer, vous allez recommencer le lobby pour tenter de convaincre cette nouvelle ministre. Vous n'allez pas recommencer les études, là.
Tout à fait, c'est bien énoncé, c'est exactement ça.
Alors là, on s'en va en élection. C'est qu'on a soit un espoir que ça bouge très vite, ou sinon, va probablement falloir attendre les élections pour voir si on parle au même gouvernement. Êtes-vous capable de faire des démarches immédiates dans l'espoir que ça bouge peut-être avant la prochaine élection?
Mais oui, parce que pour le parti qui est au pouvoir présentement, ils ont aussi à faire des démonstrations, faire de grandes choses, de belles choses, des annonces. Il faut se rendre jusqu'aux prochaines élections. Fait que mon espoir est bon de penser que dans l'année qui s'en vient, ils ont besoin de faire des annonces et je voudrais en faire partie. Moi j'ai une bonne vision là, que les choses sont possibles. Là.
De mon côté, j'ai la vision que c'est le temps de faire une pause. Alors, on va en faire une autre et puis on va se permettre une autre chanson et la météo. Et puis, on revient avec la troisième et dernière partie, la conclusion de cet entretien. Vous pensez quoi de cette première année véritable sur le terrain des activités de la Société du patrimoine? Parce que là, on les a vus actifs sur le terrain cette année-là,
C'est
se
ça.
déployer. Quelle est votre appréciation de ce qu'on a vécu dans cette dernière année?
Je pense que la qualité du travail qui a été fait, là, elle est vraiment à la hauteur des attentes qu'on pouvait avoir, totalement. L'équipe est formée, les gens en place. Il y a des démarches qui sont faites avec la recherche pour essayer d'aller. Tu sais, il y a des possibilités d'avoir une chaire de recherche. Le scientifique qui est dans le dossier en chef, André Desrochers, la nouvelle directrice, les gens qui ont été impliqués, je pense que ça a été vraiment là, d'une très grande qualité. Il y a eu un gros, gros travail de fait et la continuité, ça va bien. Puis la façon d'intégrer, là, d'être inclusif avec cette nouvelle société-là, je pense qu'on est vraiment là. Il y a une acceptabilité puis une participation, là, ça a très bien été. Ça a été une excellente année.
Vous n'attendez peut-être pas cette question-là, mais je vais vous la poser parce que moi, si j'allais voter pour un maire ou une mairesse, je voudrais savoir ça. Vous voyez Port-Meunier où dans 4 ans? Parce que là, vous allez amorcer un deuxième mandat si vous êtes élu. Votre rêve à vous, là, j'ai envie de dire, c'est quoi votre rêve par rapport à Anticosti d'ici 4 ans à l'issue de votre deuxième mandat?
Bien, c'est d'avoir une capacité progressive à la mesure de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, on le sait qu'on a des contraintes qui sont importantes, des enjeux, des fois avec des niveaux qui sont différents que quand on est sur le continent. Dans 4 ans, ce que j'aimerais voir, c'est d'avoir une croissance de la population. Parce que là, il y a un arrêt d'avoir une décroissance. La croissance, je voudrais qu'elle se maintienne, mais la capacité, ce qu'on est capable de faire. Qu'est-ce que ça peut représenter? On va pas passer dans 4 ans, là, de 200 de population à 300, là. Techniquement, là, c'est pas possible. Alors, c'est de penser que dans 4 ans, si on avait 20 ou 30 familles de plus, là, ce serait de belles réussites, vraiment de belles réussites. Et ce dynamisme-là que ça crée, bien, ce que ça fait, c'est de penser que les commerces qui sont établis ici vont aussi, à leur tour, pouvoir rêver d'être capables d'aller chercher du personnel parce qu'il va y avoir des gens sur place. C'est vraiment pour tout le monde, c'est pas juste pour la municipalité, c'est un enjeu pour tout le monde de pas être capable d'aller chercher les personnes pour faire le travail, tu sais, parce que puis que ça croît à la même valeur. Ça fait que notre capacité d'être capable d'avoir des gens qui viennent pour y vivre parce qu'il y a des logements, ben ça va faire des gens qui vont être capables de pouvoir aller travailler dans les différents milieux. Fait que donc de maintenir notre niveau de développement là, à la capacité qu'on a.
Madame Boulanger, merci beaucoup. On va certainement se reparler pendant la campagne électorale parce que les deux candidatures méritent qu'on les entende pour savoir qu'est-ce qui est au programme. Et dans votre cas, bien, vous êtes déjà tellement mêlé à plusieurs dossiers parce que vous venez de livrer et vous êtes à compléter ce premier mandat de 4 ans. Donc, si vous me le permettez, je vous réinviterai à l'émission d'ici l'élection.
Ben, ça va être avec un plaisir, François.
Voilà pour notre entretien d'aujourd'hui. Je tiens à spécifier que la même occasion va être offerte à Monsieur John Pinault, qu'on devrait avoir en entrevue. Si c'est pas demain, ce sera en début de semaine prochaine, mais on va traiter tout le monde équitablement. Cette entrevue a été réalisée grâce à l'initiative du journalisme local financée par le gouvernement du Canada.